Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et du 199e numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique, toulousaine et régionale. Cette fois, ça y est, on peut dire que la saison classique 22-23 est lancée pour de bon. Depuis le concert d'ouverture de Piano Jacobin vendredi dernier, une 43e édition du festival que nous vous avons présenté avec son co-directeur artistique Paul-Arnaud Péjouan, l'invité de notre précédent numéro. Piano Jacobin se poursuit jusqu'à la fin du mois et d'autres événements vont rapidement prendre le relais à Toulouse et dans notre région. Dans deux semaines a lieu le 8e festival Passion Baroque à Montauban et dans le Tarn-et-Garonne. Une édition 2022 placée sous le signe des musiques du bassin méditerranéen, qu'elles soient issues des rives européennes ou orientales. J'ai donc invité aujourd'hui Jean-Marc Andrieux, fondateur et directeur artistique des Passions, l'orchestre baroque de Montauban, mais aussi fondateur et directeur artistique du festival Passion Baroque. Également présent dans cette émission, toujours fidèle au poste, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Sans plus attendre, petit retour sur l'actualité musicale récente. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour Serge, bonjour Jean-Marc, merci bonjour. D'être une fois de plus au rendez-vous.
Bonjour, merci pour votre accueil.
Mais c'est toujours un plaisir, vous le savez. Je l'évoquais il y a quelques instants, le concert d'ouverture de Piano Jacobin 2022 a eu lieu vendredi soir, au cloître bien sûr, devant une assistance très nombreuse et impatiente de découvrir celle que l'équipe du festival avait choisie pour lancer cette 43e édition, la toute jeune japonaise Yumeka Nakagawa. Un choix audacieux si l'on songe que cette pianiste est âgée d'à peine 21 ans et que c'est la première fois qu'elle se produisait à Piano Jacobin. Il faut tout de même rappeler qu'elle a été lauréate du prestigieux prix Clara Ski l'année dernière, ce qui lui confère déjà une certaine stature internationale, pourrait-on dire, et quelques lettres de noblesse. Quel programme avait-elle conçu pour faire ses premiers pas aux Jacobins? Eh bien, tout sauf la facilité, puisqu'elle a enchaîné 4 impromptus de Schubert, puis la belle mais redoutable sonate opus 1 d'Almenberg, et enfin la longue et virtuose et fameuse sonate en si mineur de Franz Liszt, excusez du peu, un programme d'une extrême difficulté, surtout pour une jeune pianiste qui avait la lourde charge de lancer un festival où elle faisait ses débuts. Nous avons vu monter sur scène une toute petite jeune femme, vraiment minuscule, menue, en tout cas, quel artiste. D'emblée, dès les premières mesures, les premières notes des impromptus de Schubert, on a senti que c'était une vraie musicienne avec une personnalité, une expressivité déjà très affirmée, que ce soit par son phrasé, les couleurs, la puissance et la nuance de son jeu. Et quand je parle d'expressivité, je dois préciser qu'elle concerne autant son jeu que la manière dont elle vit la musique. On voyait passer sur son visage, dans son regard et dans ses postures, tout ce qu'elle met d'elle-même pour transmettre l'émotion au public. C'est rare chez les musiciens asiatiques qui ont souvent un petit côté mécanique dans leurs interprétations. J'ai appris ensuite que Yumeka Nakagawa vit en Allemagne depuis assez longtemps. C'est là qu'elle a poursuivi sa formation musicale à Düsseldorf puis à Weimar. Ceci explique peut-être cela, cette capacité à vivre la musique au plus profond de son être. C'était notamment très audible, si je puis dire, par sa manière de respecter, même d'habiter les silences dans les œuvres qu'elle a jouées. Faut-il le rappeler, la musique c'est aussi du silence, et ce n'est pas Jean-Marc Andrieux ici présent qui va me dire le contraire.
Certainement pas.
Alors, bien sûr, les puristes et les grands connaisseurs auront sans doute relevé de ci, de là, quelques notes à côté, comme j'ai pu l'entendre, mais tout le reste était tellement formidable qu'on n'y prêtait guère attention, en tout cas pas pour ma part. Une chose m'a frappé, c'est que sa sonate en si mineur de Liszt n'a jamais été grandiloquente, alors que cette œuvre y prête le flanc, comme souvent d'ailleurs la musique de Liszt, surtout lorsqu'on est un jeune musicien, une jeune musicienne en l'occurrence, et qu'on tient à montrer tout ce qu'on sait faire. Elle n'a jamais été pompeuse, et c'est ça qui me fait dire que Yumeka Nakagawa est déjà une grande musicienne, et qu'elle le sera de plus en plus dans les années à venir. Elle a été littéralement ovationnée à la fin de son concert, et pour remercier le public et boucler la boucle après ce programme magnifique et très bien pensé, elle est revenue jouer en bis une pièce de Schubert transcrite par Liszt. Pour vous faire entendre cette pianiste, je propose de remonter un peu plus loin dans le temps. Nous allons l'écouter maintenant interpréter le troisième mouvement Andante molto cantabile et espressivo de la sonate opus 109, la 30e de Ludwig van Beethoven. Le troisième mouvement, Andante molto cantabile et espressivo, de la sonate Opus 109 de Ludwig van Beethoven, interprété par Yumeka Nakagawa. C'était d'ailleurs pendant le prix Clara Askill, le concours de l'année dernière. Piano Jacobin se poursuit jusqu'au 30 septembre, mais c'est terminé pour cette première partie d'émission qui fut courte. Une petite virgule musicale avant de nous retrouver dans quelques secondes avec Serge Chosy et Jean-Marc Andrieux, notre invité d'honneur. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Mélomanie, la suite avec mes invités Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec Jean-Marc Andrieux, fondateur et directeur artistique des Passions, l'orchestre baroque de Montauban et fondateur et directeur artistique du festival Passion Baroque, qui est organisé par l'association Les Amis des Passions, je le précise pour ne froisser personne. La 8e édition a lieu du 1er au 9 octobre à Montauban et dans le Tarn-et-Garonne. Et comme vous en avez l'habitude, vous avez choisi une thématique générale, ce 8e festival. Jusqu'alors, elles ont toujours été, ou souvent été en tout cas, accompagnées d'un petit côté exotique s'agissant d'une manifestation dédiée à la musique baroque. Cette année, vous êtes fidèle à votre réputation avec une programmation originale qui fait la part belle aux compositeurs et aux musiques du bassin méditerranéen, et pas seulement à ceux de la vieille Europe. Est-ce que c'est une thématique qui vous traînait dans la tête depuis quelque temps, ou est-ce que c'est plutôt une des œuvres ou un des concerts prévus dans la programmation qui vous a amené à retenir ce thème général ?
Je l'avoue, c'est de l'opportunisme.
Je vous reconnais bien là.
Non, c'est vrai.
Bel opportunisme. Hein.
Oui, merci. Non, en fait, voilà, le temps fort du festival, ce sera la création de Daphne Saint-Simadir, on y reviendra, composée par un auteur narbonnais, donc Mondonville. Et puis j'avais envie d'inviter le magnifique programme de Joël Subiette, Méditerranée sacrée. Et je me suis dit, quand même, Narbonne au bord de la mer, Méditerranée sacrée, on est en train de... Voilà, on n'est pas loin de la plage, là. Donc, du coup, je me suis dit, on va prendre le thème Méditerranée. On a rajouté un troisième concert avec Concerto Soave, Jean-Marc Heim, un programme dédié aussi à la musique autour de la Méditerranée. Et le tour est joué, voilà. Le thème est trouvé et je trouve que ça va très, très bien.
Vous n'avez pas osé baroque à la plage, mais c'était pas loin.
Ce sera pour la prochaine édition. Merci de l'idée.
Mais elle me semble très bonne. Alors, grand événement de cette 8e édition, vous venez d'en parler, il y en a d'autres, mais tout de même, c'est le concert d'ouverture avec la création, ou peut-être faudrait-il dire la recréation, de Daphnis et Alcimadur, l'opéra de ce Jean-Joseph Castaner de Mondonville, c'est ça le nom complet.
Oui.
Ça va se passer au Théâtre Olympe de Gouges, samedi 1er octobre à 20h30, avec les Passions de Montauban, le chœur Les Éléments et quelques chanteurs solistes dont vous allez nous parler dans quelques minutes. C'est en version concert, tout ça sous votre direction. Et c'est un événement parce que cet opéra n'a pas été donné depuis longtemps, en tout cas dans sa version d'origine, mais aussi parce qu'il est quasi entièrement écrit en occitan. J'ai bien quasi entièrement, hein, parce que le prologue est en français, vous allez aussi nous expliquer ça. J'ai donc, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais d'abord, il faut que vous nous présentiez ce monsieur de Mondonville et que vous nous expliquiez pourquoi vous avez souhaité redonner vie à cet opéra. Ça, je sais qu'il y a longtemps que ça vous trottait dans la tête.
Effectivement, très 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 longtemps. En fait, à l'époque où j'ai créé l'orchestre, en 86, je travaillais avec Jean-Christophe Maillard, qui était le musicologue, le grand musicologue regretté d'ailleurs, qui nous a quittés récemment, et qui a dressé le catalogue des fonds musicaux anciens à Midi-Pyrénées, et qui m'a tout de suite sensibilisé sur cette œuvre. Il m'a dit, tu te rends compte, le seul opéra baroque occitan de Mondonville, il faut absolument que tu montes ça. Donc j'ai très tôt eu envie de créer cette œuvre. L'occasion m'en a été donnée dans les années 90, grâce à Jean-Jacques Cubain, à qui j'adresse un salut amical.
Bien connu à Toulouse, voilà. Et dans la région.
Et nous en avons donné des extraits dans le cadre du festival Déodat Séverac, à Saint-Félix-de-Lauragais. Donc j'ai eu l'occasion déjà de commencer de faire la connaissance de cette œuvre, incomplète, mais quand même, avec de bons artistes, Isabelle Poulnard, Pierre Catala, Léonard Pezzino, des bons chanteurs. Et puis après, il y a eu le projet de le redonner, mais bon, ça, on a eu tout le temps, des contretemps, le dernier étant, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu un virus, là, je ne sais pas, qui nous a empêchés. Non, vous n'êtes pas pas au courant. Il n'est pas encore arrivé à Radio Présence.
Pas jusqu'à moi, en tout cas.
On devait, il y a 2 ans, le donner au Festival de Radio France à Montpellier, à Narbonne, la ville natale de ce Mondoville dont je vais parler. Et puis, ça a été encore une fois annulé. Bon, bref, cette fois-ci, on n'est pas loin d'y arriver. 1er octobre à Montauban et le 12 et 13 au Théâtre du Capitole à Toulouse. Je remercie Christophe Grissi pour son accueil. Mondoville, violoniste. Né à Narbonne, comme je disais, son père, violoniste et musicien originaire de Bordeaux, qui va s'installer à Narbonne et qui va donner les rudiments de violon à son fils, un surdoué qui va très rapidement se retrouver à Paris, à la capitale. Ça va devenir un des...
Virtuose de son temps.
Un des trois grands violonistes français à l'époque. Il y avait donc Mondonville, Leclerc et Guignon. Voilà, c'était les trois stars du violon. Il passe un petit moment à Lille, à l'Opéra de Lille, et puis il revient à Paris. Alors là, il va cumuler toutes les charges. Directeur du concert spirituel, directeur de la chapelle royale, directeur de la chambre du roi. Il compose des motets, des sonates, des opéras aussi. On va là aussi en parler. Ça a été quand même un des grands compositeurs du temps de Louis XV qui partage, on va dire, le haut de l'affiche avec Rameau, avec quand même son contemporain le plus célèbre. Et donc, cet opéra, il va tomber à un moment assez compliqué en France où il y a la querelle des bouffons, c'est-à-dire les tenants de la musique française et les tenants de la musique italienne. Il va y avoir des mots aigre-doux, du vitriol, on va s'écharper par articles interposés. Grimm, Diderot, D'Alembert, Rousseau, tout le monde s'y met. Et donc, Mondonville...
Ils étaient côté italien, les encyclopédistes.
Les encyclopédistes, et Grimm, c'était... C'était la musique italienne qui, pour eux, était la mieux. Elle est plus simple, elle est plus facile à écouter. Il disait, je ne sais plus qui a écrit, je crois que c'est un autre Rousseau, qui s'appelait Jean-Baptiste Rousseau, qui est un critique, pas Jean-Jacques, mais un autre, qui a dit « Les Français n'ont pas de musique, et s'ils en ont une, c'est tant pis pour eux », pour vous dire un petit peu le ton dans lequel on s'écharpait à l'époque, c'est stupide. Bon, en tout cas, voilà, Mondonville, lui, va se situer... Un peu plutôt du côté français, parce que Madame de Pompadour, sa protectrice, lui a demandé d'écrire un opéra pour défendre quand même la musique française. Il va le faire intelligemment avec Titon et l'Aurore en 1753. Et puis après, dans la foulée de ce succès, il va composer alors Daphnis Alcimadur en occitan. Vous en avez parlé. Pourquoi en occitan? C'est sa langue natale, sa langue maternelle. Il est originaire de Narbonne. Il parle le languedocien. Quand on dit occitan, il faut faire attention.
Ça vient plus tard.
Cette appellation occitan, c'est 19e siècle. Oui. Hein, mais à l'époque, le mot occitan, bon, on n'existait pas.
Langue doc,
exactement. Et d'ailleurs, l'opéra de Daphnis Alcimadur, sur le titre, il met pastorale languedocienne. Voilà, exactement. Et donc, il va faire appel aux trois meilleurs chanteurs de l'époque qui, tiens, comme par hasard, viennent du sud-ouest. Ce sont des stars, et oui, comme Baquier, comme aussi les meilleurs chanteurs, on le sait, ils viennent du sud. Les plus belles voix, elles viennent de chez nous, on le sait. Bien sûr. Et donc, il va faire appel à Marie Fell, qui est la grande diva de l'époque, qui a créé tous les grands rôles de l'opéra français. Platé, tout ça.
C'est une bordelaise, je crois.
Qui est de Bordeaux, qui est originaire de Bordeaux, et qui va peut-être parler un peu en gascon, là, va chanter en gascon. L'autre contre qui va créer le rôle donc, de Daphnis, c'est Pierre Géliot, originaire de Pau, un Béarnais.
Alors là, on est en plein dedans. Là.
Et Janet, le frère d'Alcimadur, le troisième rôle, qui est un ténor, c'est La Tour, qui est de Toulouse. Donc, on a la mafia du sud-ouest qui a débarqué à Paris et qui va imposer...
Ce n'est pas la mafia Cassoulet encore à l'époque.
Voilà, ou Garbure.
Oui.
En tout cas, voilà, ça va obtenir quand même beau succès. Ce sera représenté à la cour à Fontainebleau, devant toute la cour, qui a bien apprécié l'œuvre. Juste pour la petite histoire, c'est dédié à la dauphine Marie-Joseph de Saxe, qui vient d'accoucher d'un petit bébé qui a une semaine à ce moment-là, qui dans son berceau a entendu aussi Daphnis Alcimadur, et ce petit bébé, c'est le duc de Berry.
C'est le futur Louis XVI.
Qui deviendra Louis XVI.
Oui, le futur Louis XVI.
D'ailleurs, voilà l'histoire.
Formidable, hein? Quelle aventure, hein?
Et une belle histoire.
Oui, mais et donc, on apprend toujours beaucoup de choses quand Jean-Marc Andrieux vient à cette émission, parce que, bon, d'une part, il fait revivre des œuvres que plus personne ne joue, mais il nous raconte toute l'histoire, les anecdotes qui tournent autour de la jeunesse de l'œuvre et les personnages qui y ont concouru. L'histoire tout de même de Daphnis et Alcimadur, parce que c'est inspiré d'une fable de La Fontaine.
Oui, absolument.
Pas la plus connue, loin de là. Hein.
Oh non.
Mais alors, ce Daphnis, c'est pas le même que le copain de Chloé?
Non.
Et non, c'est un autre.
Ah, d'accord.
Et non. Non, bien.
Ça se passe pas en Grèce. Hein.
Et non. Et non, 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 Daphne Salcimadur, donc une fable du 12e livre de La Fontaine. La fable, ça finit très mal. Daphne est amoureux d'Alcimadur, elle le rejette. Et du coup, il en meurt de chagrin et elle aussi va mourir et elle va le retrouver au paradis ou je ne sais pas où, dans un lieu voilà, après la mort. Et donc, et Daphne se venger en la rejetant. Enfin bon, c'est affreux. Mondonville, oui. Pourquoi il a pris cette fable, je ne sais pas. Bon, c'est quand même plus intéressant que La cigale à la fourmi quand même pour ce thème pastoral, puisqu'il s'agit de bergers et de bergères.
Ouais, voilà,
mais il va faire une fin heureuse. Il va transformer l'histoire. Il va mettre une intrigue, une petite intrigue avec un loup qui va terroriser tout le monde. Janet, le frère, n'est pas dans la fable aussi, le frère d'Alcimadur, qui va faire une sorte de petit complot pour finir enfumer sa sœur pour que finalement elle devienne amoureuse de Daphne. Il y a tout un subterfuge.
Oui, donc c'est pour ça qu'il faut dire que c'est inspiré de la fable de La Fontaine, mais ce n'est pas une adaptation strictement.
Pas du tout. Pas du tout, voilà. C'est juste inspiré. Et puis sinon, c'est du languedocien. C'est écrit en languedocien. À l'époque, ça n'était pas standardisé, la langue. Donc, c'est Mondonville qui a écrit le livret lui-même, en occitan, en languedocien. Mais le prologue est en français.
Est en français, ça c'était peut-être pour poser le décor, que tout le monde comprenne bien, pour faire peut-être une petite concession tout de même.
Alors, dans le prologue, en principe, le prologue, à cette époque, dans l'opéra, le prologue c'est pour chanter les louanges du roi. Toujours dans le prologue, on dit « vive le... » voilà. C'est toujours à la... Mondonville ne va pas faire ça, il va utiliser... un personnage emblématique de Toulouse, puisque l'action se passe dans la campagne toulousaine, c'est Clément Cizor. Il va invoquer les jeux floraux et le rôle de Clément Cizor qui va chanter ce prologue en français pour chanter bien l'amour et tout, et c'est bien fait. Et donc, le librettiste, j'ai oublié le nom, je crois que c'est un abbé, alors deux voix de nom, je vais peut-être risquer ce nom, peut-être de mémoire, mais je ne suis pas sûr, va écrire ce prologue à la gloire de Clément Cizor et des jeux floraux.
Donc la langue d'Oïl est aussi présente tout de même dans Daphné, Salcimadur. Oui. Ça, c'était peut-être aussi pour complaire un peu au roi et à sa cour, je n'en sais rien. La musique de Mondonville, nous allons en parler, mais on va d'abord écouter, pour s'en faire une petite idée, un premier extrait de Daphné et Alcimadur, cette pastorale languedocienne. Il s'agit d'une contredanse. Une contredanse extraite de Daphné et Alcimadur, l'opéra de Mondonville, une contredanse qui n'a rien d'une contravention, même si j'ai cru voir que la voiture de Jean-Marc Andrieux n'était pas très bien garée. Bon, pour être un peu plus sérieux, est-ce que ce qu'on vient d'entendre, c'est typique de la musique de Mondonville et de l'esprit de son opéra ?
Oui, là, vous avez vu, il y a une petite ambiance un peu presque provençale. Avec cette
fête de village,
cette petite flûte, voilà.
Village,
et il s'est pas mal inspiré d'air traditionnel. Hein. Il le dit dans son introduction, qu'il y a un air du Languedoc. Et il a utilisé quelques petites mélodies populaires qu'il a parfaitement intégrées dans l'opéra.
Alors moi, il me semble entendre dans cet extrait, je ne sais pas si c'est le cas de tout l'opéra, l'influence de Rameau tout de même. Est-ce qu'elle est vraiment perceptible et présente dans l'ensemble de l'œuvre ?
surtout dans les danses, dans certains airs, mais c'est surtout dans les je crois qu'il y en a 19 danses dans tout l'opéra.
Tout de même.
Il y a quand même pas mal de passages chorégraphiés. Ouais. Et donc là, tout à fait, on sent quand même l'ambiance des danses aussi dans les opéras.
Rameau qui était l'aîné de Mondonville, mais qui était bien vivant encore à l'époque.
Il avait une trentaine d'années de plus, oui.
Ouais. Parce qu'il est mort en 1764. Est-ce que c'est une musique difficile à jouer au sens où il est difficile de rendre vraiment toute l'expressivité de cette musique? Est-ce qu'elle est jouissive à jouer? Moi, j'ai l'impression que oui.
Oui. Alors, ce qui est évident, c'est que Mondonville écrit pour le violon. Ça, c'est clair que l'expressivité, il maîtrise parfaitement l'instrument et il l'utilise avec une grande virtuosité. C'est très, très difficile à jouer. Il y a des passages assez virtuoses pour l'orchestre, mais on a un grand, grand, grand plaisir à interpréter cette musique qui est vraiment bien faite pour l'instrument. Un exemple, peut-être vous allez le passer, l'air le plus connu, c'est Gazouliade sa Ozelette. C'est le premier air d'Alcimadure où elle chante avec les petits oiseaux. Et l'idée qu'on a quand on imagine un instrument qui imite les oiseaux, c'est la flûte. Là, c'est les violons qui vont imiter les oiseaux. Et d'ailleurs, les flûtistes sont très jaloux.
Vous en connaissez des flûtistes?
Oui.
Une drôle d'espèce.
Voilà. Et en tout cas, voilà, ça c'est une chose. Et puis après, dans la plupart des œuvres de Mondonville, je voudrais signaler deux choses. L'harmonie est quand même très bien utilisée. Elle est plus complexe que la musique italienne, que les harmonies italiennes. Elle se rapproche plus de la musique française. Quant à la rythmique, elle est plus là dans l'esthétique italienne. Il y a un rythme, ça fait une musique comme on vient de l'entendre là, bien rythmée et assez tonique, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Les interprètes de cet opéra, de votre production, celle qu'on va découvrir au Théâtre Olympe de Gouges le 1er octobre, donc Les Passions, Les Éléments, et qui d'autre? Parce qu'il y a tous les rôles principaux, Clément Cizor, bien sûr Daphnis et Alcimadure. Jeannette, alors dites-nous.
Il y a quatre solistes. Hélène Lecor, donc une magnifique chanteuse, donc qui va chanter le prologue et qui va chanter le rôle de Clément Cizor avec de beaux airs. Alcimadure, donc la bergère, ce sera Élodie Fonard, une magnifique chanteuse soprano qu'on a déjà entendue sur la scène du Capitole et qui chante régulièrement avec les Arts Florissants, William Christie. C'est vraiment une des jeunes artistes en vue au niveau de la musique baroque française. Voilà, Élodie Fonard. Le haute-contre, donc, c'est François-Nicolas Gélot qui chantera le rôle de Daphnis. Alors, haute-contre, c'est un ténor aigu, technique française, qui chante depuis assez longtemps avec nous. Élodie, c'est la première fois qu'elle chantera avec nous. Donc, François-Nicolas a déjà chanté quelques fois des concerts avec nous et il a exactement la voix qu'il faut pour ce rôle-là. Quant au rôle de Jeannette, c'est une taille, à l'époque on appelait ça une taille, c'est un ténor. C'est Fabien Yon qui tiendra ce rôle, qui lui aussi, je l'ai entendu l'année dernière au Théâtre des Champs-Élysées, je me suis régalé d'entendre cette voix, je me dis c'est lui qu'il me faut. Donc, pour Jeannette, pour ce rôle, il faut à la fois du caractère, de la vaillance et. Pour la petite histoire, peu après que je l'ai recruté pour ce rôle, il a gagné le concours de mélodie française. Pour dire quand même, il a un bon niveau.
Bien vu.
Eh oui.
Il a du nez, Jean-Marc André.
Ah oui, oui.
Et de l'oreille, apparemment.
Voilà.
Peut-être qu'il faut préciser, il y a de fausses idées qui circulent. Haute-contre, il y en a qui confondent avec contre-ténor.
Ah oui, alors,
ça n'a rien à voir.
Alors, peut-être trois mots là-dessus. Deux
oui.
Même. Pourquoi pas
ça,
un
ça n'existe qu'en France, l'haute-contre. Hein.
Alors, la haute-contre, quand on dit haute-contre, c'est la technique française.
Oui.
Serge, c'est ça. C'est-à-dire un ténor qui chante aigu et qui va un petit peu mélanger sa voix avec la voix de tête un petit peu pour gagner en aisance et en puissance.
Mais c'est pas une voix de tête pure comme les celles du contre-ténor.
En revanche, voilà, le contre-ténor, c'est anglais, c'est une technique anglaise. On chante tout en voix de tête et on essaye de descendre vers le grave en restant en voix de tête.
Oui, voilà.
Voilà, donc deux choses qui n'ont rien à voir.
Voilà. Jarouski, c'est contre-ténor.
Exactement.
Et contre, il n'y a pas tant que ça en France, des hautes contre, vraiment.
Hautes contre à la française, il n'y en a pas beaucoup.
Donc,
François-Nicolas, il y a Vincent Lièvre-Picard. Oui. Et on parlait aussi de. Je n'arrive pas à retrouver.
Il n'y a que ceux qui travaillent avec vous.
si, celui qui a chanté Platé au
Capitole. Ah, Mathias Vidal.
Mathias Vidal, voilà, ouais, ça c'est l'exemple parfait de haute contre à la française.
Excellent.
Voilà.
Un écueil tout de même dont nous n'avons pas parlé, c'est qu'ils vont chanter en occitan, ces chanteurs.
Mais non, c'est pas un écueil, au contraire. Alors, si on va à l'opéra pour l'entendre chanter que du français, désolé, mais alors faut pas venir Traviata, Wagner, Verdi.
Non, non, mais la question, alors, en fait, donc, c'est pas tellement pour l'auditeur.
Alors, c'est pas légal, mais vous m'avez tendu une perche. Ouais. Ah, l'écueil. Pour l'auditoire, ce sera surtitré.
Oui, bon, ça.
Déjà, bon. Ça nous permettra de réviser notre occitan et de s'apercevoir finalement. Ça, voilà. Pour les chanteurs, là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait appel à Muriel Balbier-Castel, qui est une chanteuse et professeure d'occitan.
C'est la voix du métro.
C'est la voix du métro.
Quand vous entendez les stations annoncées en occitan, c'est elle. Muriel Balbier-Castel.
Tout le monde la connaît à Toulouse. Et voilà. Et donc, c'est elle qui va conseiller les chanteurs, qui va surveiller l'orthodoxie de la prononciation du languedocien pour que ce soit nickel. Parce que là, je veux que ce soit vraiment très bien.
Ouais.
Et elle a déjà enregistré en parlant tout le texte et on a envoyé tout ça aux chanteurs qui se le mettent déjà dans l'oreille. Après, les chanteurs, ils sont habitués à chanter dans des langues différentes. Ils connaissent l'italien.
Y compris des langues qu'ils ne parlent pas.
Pour eux, ça va marcher. Oui.
Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, nous avons écouté un extrait instrumental de Daphnis et Alcimadure avec cette contredanse. Je propose qu'on écoute un air chanté. C'est un air d'Alcimadure, ce fameux Gazouillat aut Zeles. Je prononce bien ?
Non.
Muriel Babit, vous m'écoutez pas.
Gazouillat aut Zeles.
Gazouillat aut Zeles.
Voilà, aut Zeles.
Aut Zeles.
Oui, il y a un T. Aut Zeles. Petits oiseaux, ça veut dire.
Oui, ça j'avais traduit, mais. Donc là, il est interprété par Françoise Massé, une chanteuse qu'on a entendue tout récemment à Toulouse lors du dernier concert de musique en dialogue aux Carmélites. Gazouillat aut Zeles, air d'Alcimadure, chanté par Françoise Massé, là encore Jean-Marc Andrieux. Moi, je trouve ça très entraînant, très guiré, comme doit l'être une passerelle telle qu'on l'imagine. Alors, information importante, cette production va être prise au Théâtre du Capitole les 12 et 13 octobre à 20h, et à Montauban, au Théâtre Olympe de Gouges, le 1er octobre, avant que vous la donniez en ouverture du festival. Vous avez organisé une avant-scène avec Christophe Gristy, le directeur artistique de l'Opéra National du Capitole, pour présenter l'œuvre au public, comme vous venez déjà un peu de le faire lors de cette émission.
Oui, on va faire une table ronde avec Joël Subiette aussi, donc, et Christophe Gristy à trois, pour parler de l'art lyrique en général, de comment on organise les répétitions, tout ça pour entrer un petit peu dans les coulisses de la création d'une œuvre et en parler donc avec des personnes qui connaissent le métier. Voilà, Christophe Gristy, que je remercie encore pour son accueil au Théâtre du Capitole, et puis je remercie Joël Subiette pour sa collaboration, puisque les éléments sont coproducteurs de ce spectacle.
Ah bah c'est très bien ce que fait Christophe Gristy, à la fois pour des ensembles régionaux, Et oui. Vous me permettrez de parler des Sacs-Moutiers, qui fait venir pour deux concerts aussi au Théâtre du Capitole.
Bien sûr.
Les passions, l'Orchestre Baroque de Montauban, c'est formidable. Mais c'est bien, il faut vraiment faire entendre les forces vives de grande qualité qui existent dans notre région. Et il y en a beaucoup.
Alors, encore un peu plus tôt, à 16h, à l'espace des Augustins de Montauban, il y a la projection du documentaire Daphnis et Assimadur, enquête sur un opéra baroque occitan. Et tout ça, c'est en très libre, je ne l'ai pas précisé, mais on peut en profiter tout à fait gratuitement. Voilà pour Daphnis et Assimadur, mais il y a d'autres rendez-vous lors de ce 8e Passion Baroque, évidemment. Entre autres, le concert qui concentre à lui seul la thématique de cette édition 2022, celui que donne le chœur Les Éléments, sous la direction de leur fondateur, votre vieil ami Joël Subiette, dont nous venons tout juste de parler. C'est le dimanche 2 octobre à 17h avec ce programme intitulé Méditerranée sacrée, programme largement inspiré du CD éponyme paru il y a 11 ans maintenant. Et je crois que le programme lui-même date de 2008, avant l'enregistrement.
Mais un CD qui a fait date, qui est vraiment magnifique.
Joël Subiette dit lui-même qu'il continue à donner ce programme un peu partout en France, mais pas seulement en France.
Tout à fait, je tenais à l'inviter parce que j'aime beaucoup ce programme. J'avais entendu quand il l'avait créé à Toulouse. Et puis, je me disais que ça manquait quand même à Montauban d'accueillir ce... Puis je profite de la présence du chœur la veille pour...
Bien sûr.
Ils vont rester un peu à Montauban pour ce concert qui va être magnifique, évidemment.
Alors ce programme, c'est extraordinaire parce qu'il y a des chants en araméen, en latin, en hébreu, en arabe classique, en grec ancien, et tout ça avec des œuvres de la Renaissance à nos jours, parce qu'il y a même des compositeurs, tout ce qu'il y a de plus contemporain, qui ont composé pour ce programme.
Oui, d'ailleurs, Zad Moultaka qui a écrit...
compositeur libanais.
Libanais qui a... que j'aime beaucoup, c'est vraiment très très beau, puis c'est un programme a cappella, c'est la voix dans toute sa splendeur et son expressivité.
Et puis Alexandros Markeas, lui qui est grec,
c'est
la même génération avec Moultaka, c'est les musiciens qui ont 55, plus ou moins 55 ans.
Oui.
Alors tout le reste, on leur remonte beaucoup plus dans le temps, là c'est pour certains en tout cas, c'est la Renaissance. Donc il y a Rossi, il y a Gesualdo,
Lotti,
Vittoria, et puis Antonio Lotti qui lui est un petit peu plus récent puisqu'il est à cheval sur 17e, 18e siècle. Oui. Donc c'est vraiment un magnifique programme qui est propice, je trouve, au recueillement, pour ne pas dire parfois presque à la prière.
Bien sûr, tout à fait, et qui est, le titre est Méditerranée sacrée, ça met tout de suite le ton, et tout le monde doit trouver un moment de recueillement dans ce programme.
Il faut qu'on écoute un extrait de ce magnifique programme Méditerranée sacrée. Voici par exemple Crucifixu, pièce pour 8 voix composée par Antonio Lotti.
Thank you.
Crucifixus, pièce pour huit voix d'Antonio Lotti, interprétée par le chœur Les Éléments, sous la direction de Joël Subiette, un extrait de leur CD et du programme Méditerranée Sacrée à découvrir ou redécouvrir pour certains dimanche 2 octobre à 17h au Théâtre Olympe de Gouges. Autre rendez-vous important, celui avec l'ensemble Concerto Soave, qui va accompagner la soprano argentine Maria Cristina Kerr et le chanteur ioudiste franco-palestinien Monaim Adouane. C'est à l'église Saint-Joseph de Montauban, vendredi 7 octobre à 20h30. Et le programme est intitulé « Vertige du sacré de la Venise du Seicento aux rives de la Palestine ». Jean-Marc Andrieux, présentez-nous cette formation qui vous est chère, je le sais. C'est ce liste et ce programme très original aussi.
Concerto Soave est connu dans le milieu baroque, c'est un des meilleurs ensembles français dirigé par Jean-Marc Heim qui est à Marseille et qui sont basés à Marseille. Il est claveciniste, organiste, Jean-Marc qui dirige cet ensemble depuis assez longtemps et la figure l'égérie on va dire du groupe c'est Maria Cristina Kirr. Qui est une.
Qui vient d'Argentine et pas allemande. Hein. Voilà, c'est oui. Comme Martha Argerich. Non, c'est d'Argentine.
Oui. Et qui est là aussi une chanteuse fantastique qui a chanté beaucoup avec Jordi Sabal.
Oui, et puis beaucoup à Toulouse. On l'a vu souvent. Hein.
On l'a vu souvent à Toulouse. Ouais, ouais. Voilà. D'ailleurs, elle a créé aussi une œuvre avec Les Éléments. Et ils ont fait un programme avec Concerto Soave. Ils avaient créé une œuvre dans laquelle Maria Cristina était soliste. Donc c'est un programme qui me tient à cœur parce que là aussi on est en plein dans ce fameux thème de la Méditerranée qui va être un peu complémentaire de Méditerranée sacrée des éléments. C'est une formation de chambre, ça n'est pas un chœur mais une chanteuse et un chanteur. Un chanteur palestinien qui vient aussi donc de cette culture proche-orientale. Et on va entendre aussi l'expressivité incroyable de ces musiques avec des moyens techniques différents du chœur mais qui sont aussi, alors on va avoir le clavecin et l'orgue, on va avoir le luth, luthiste donc français, mais aussi Monaim Adouane joue de l'oud. L'oud en fait c'est le luth,
hein,
c'est
le luth oriental, on pourrait dire ça.
En fait le mot luth vient de oud, oud hein, c'est l'un dérivé voilà, linguistique de l'oud qui est originaire des pays d'Orient, alors exactement où, je ne sais pas, d'Iran peut-être. Enfin,
plutôt Proche-Orient, je pense.
Proche-Orient. Ouais, et puis Christine Plubeau qui joue merveilleusement la viole de gamble. On va avoir un magnifique ensemble pour ce programme qui me tarde d'entendre.
Alors oui, il y aura des œuvres de Tarquinio Merula, de Claudio Merulo et de Claudio Monteverdi. Et puis, oui. Il y a des choses qui sont inspirées de la poésie de Mahmoud Darwish, pour ceux qui connaissent, hein, ou du Cantique des Cantiques, ou des Plaintes Mariales. Donc c'est vraiment quelque chose, là aussi, hein, qui est, je pense, propice au recueillement.
Tout à
fait. Et puis en tout cas, au voyage intérieur, je dirais.
Et la prière, comme on l'a dit, on peut tout à fait se recueillir en écoutant cette musique sublime.
Le Concerto Soave et Monaim Adouane, un extrait de leur programme Vertige du... vont donc donner leur programme Vertige du Sacré de la Venise du Seicento aux rives de la Palestine, vendredi 7 octobre à 20h30 en l'église Saint-Joseph de Montauban. Alors Passion Baroque, ce ne sont pas seulement des concerts à Montauban, il y en a quelques-uns dans d'autres lieux du Tarn-et-Garonne et des lieux magnifiques qui témoignent aussi de la richesse parfois méconnue du patrimoine bâti de ce département. Le concert de clôture est programmé à l'abbaye de Beaulieu en Rouergue, c'est sur la commune de Ginals, dimanche 9 octobre à 15h. Et là, je vais vous laisser décrire le bâtiment, son histoire et la collection qu'il abrite, parce que c'est aussi un lieu d'exposition d'œuvres d'art moderne de très très grand intérêt.
Absolument, c'est ça va être un des hauts lieux culturels de la région, je pèse mes mots, puisque cette abbaye de Beaulieu vient d'être restaurée par le ministère de la Culture, à très grands frais d'ailleurs, mais c'est un investissement tout à fait pertinent, puisqu'il abrite la plus grande collection privée de tableaux d'art contemporain en France. Geneviève Bonnefoy, qui est décédée il y a quelques années, a légué sa collection à l'État. Elle possédait une collection absolument incroyable d'œuvres de maîtres. Alors bon, je ne pourrais pas vous les citer tous, mais il y a la plupart des grands artistes européens du XXe siècle, dont Simon Antaille, qui fait partie quand même des grands artistes graphistes du XXe siècle. Simon Antaille, dont qui a au moins trois garçons qui sont devenus des grands musiciens, dont Pierre.
Le claveciniste.
Pierre Antaille qui joue du clavecin, qui est un ami avec qui on va partager un programme pas loin des tableaux de son papa.
Voilà, alors vous serez associé donc à Pierre Antaille au clavecin, vous à la flûte avec bien sûr, et Manfredo Kramer.
Manfredo Kramer, voilà, j'ai dit à Pierre, si tu pouvais me trouver un bon violoniste pour nous accompagner, il n'a rien trouvé de mieux que le premier violon de Jordi Savall, Manfredo Kramer, qui est quand même un des grands violonistes actuels, et dont on donnera un programme de concerto pour clavecin et concerto pour violon de Bach, et je jouerai la suite en la mineure de Telemann.
Voilà, un très très joli programme baroque allemand. On s'éloigne un petit peu de la Méditerranée juste.
Ah oui,
c'est l'exception qui confirme la règle.
Ça, c'est le petit détour.
Voilà. Oui. Et pour se faire une idée de la musique que l'on va entendre, même si ce ne sera pas tout à fait les mêmes œuvres, lors de ce concert de clôture avec Pierre Antaille, nous allons écouter un extrait d'un disque Bach que le grand claveciniste avait enregistré avec le flûtiste à bec Sébastien Marc et le violoniste François Fernandez. Pierre Antaille avec le flûtiste à bec Sébastien Marc et le violoniste François Fernandez pour cet extrait de leur CD Bach enregistré il y a quelques années. Voilà le genre d'œuvres qui seront jouées le dimanche 9 octobre à l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue avec Pierre Antaille et Manfredo Kramer et Jean-Marc Andrieux. Et puis parmi les autres rendez-vous dans le Tarn-et-Garonne, il y a le concert du duo T42 au château de la Motte à Bardigues. Ça c'est maintenant un lieu où vous êtes régulièrement présent pour Passion Baroque. Dimanche de 2 octobre à 11h. Alors T42 c'est un duo formé par la flûtiste Alice Chimansky et la théorbiste Alban Imps. J'espère que je prononce bien. Quel programme ont-ils joué, Jean-Marc ?
Honnêtement, je crois que je leur ai laissé la carte blanche et je crois qu'elles vont faire de la musique évidemment baroque, française,
italienne.
Essentiellement, et puis de la musique italienne. Alors, je regarde sur le programme.
Je peux vous le dire, il y a Pellegrini.
Ah oui, Robert de Vizet, voilà. Delabarre, Boismortier. Voilà, ce sont des compositeurs qui ont écrit beaucoup de musique de chambre en France au début du XVIIIe siècle. Et surtout, ce duo, flûte traversière, et théorbe, je connais ces deux musiciens, ils sont vraiment...
Alice Chimansky enseigne la flûte au conservatoire de Toulouse.
Mais oui, célèbre à Toulouse. Hein,
et elle joue la flûte dans l'orchestre aussi,
elle se produit énormément.
Une excellente flûtiste que je salue, et puis donc avec Alban Imps, elles font un duo que j'aime beaucoup, et donc on sera heureux de les accueillir. En plus, au château de la Motte-Bardigues, alors on parlait du patrimoine, je peux vous dire, ce château, si jamais vous avez envie de découvrir quelque chose d'extraordinaire, c'est ce château de la Motte-Bardigues, 18e siècle, pardonnez-moi l'expression, dans son jus, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été touché depuis la Révolution.
Il n'a pas été rénové.
La famille est restée la même.
Il n'y a pas de partie qui a été ajoutée.
Et vous vous retrouvez dans les salons, deux ou trois siècles en arrière, comme ils étaient à l'époque. Et c'est extraordinaire. Et on joue dans le salon.
Pas de perruque, quand même.
Non, il fait trop chaud.
Voilà, donc il y a une visite du château d'ailleurs qui est proposée au public à 10h avant le concert. Et après le concert, il y a une dégustation de vin du domaine vinicole de Termes. Ça vaut vraiment le coup d'y aller à ce concert. Hein.
C'était ratable et puis après il faut attendre un petit peu.
Alors nous retrouvons la théorbiste Alban Hims samedi 8 octobre à 20h30 en l'église de Gibignargues. C'est sur la commune de Puy-Cornet dans le Quercy-Blanc pour un autre duo féminin. On a de la chance, il n'y a que des jolies femmes. En plus, avec la soprano Clémence Garcia, un récital intitulé, c'est parfait, Amours italiennes.
Tout à fait. On a récemment fait un programme avec Clémence Garcia à la Chapelle des Carmélites. Ce programme-là, ça m'a permis de découvrir les talents de Clémence Garcia, que j'avais déjà entendu, que j'appréciais beaucoup. Et puis quand on a travaillé ensemble, je souhaitais la réinviter pour le festival, profiter de la présence d'Alban qui va l'accompagner au théorbe. Et là aussi, je leur ai donné carte blanche pour proposer un programme...
C'est baroque italien, là, vraiment.
Oui. 16e, 17e siècle. Là aussi, je pense que ça va être... Amour italienne, voilà. Ça marche bien. Ça. Puis on est quand même toujours un peu quand même dans la Méditerranée. Là.
Monteverdi, Capsberger, Frescobaldi, Strozzi et Sartorio. C'est un programme qui est repris le même jour à 15h à Mémo, la médiathèque de Montauban. Un mot sur une expérience que vous proposez aux curieux, au musée Ingres-Bourdelle, encore un lieu magnifique. Samedi 8 octobre, toujours, c'est de 10h30 à 12h, puis de 16h30 à 18h, les one-to-one concerts. De quoi s'agit-il ?
Eh oui, ça c'est un concept qui a été créé par une musicienne allemande. Et donc, il faut que je remercie Pierre-Bernard Kempf, qui est l'administrateur de l'orchestre, et qui m'a dit, tiens, j'ai vu cette expérience, on devrait essayer de le faire. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Alors, le concept, il n'est pas compliqué. Un musicien dans une pièce, un auditeur rentre, défense de parler, il s'assoit, il se regarde et le musicien, lui, joue de la musique pendant un petit moment, pendant 5-10 minutes, et on ressort. Et voilà, il y a un petit défilé, il faut réserver, évidemment.
Ah voilà, c'est libre, enfin c'est gratuit, oui. Mais il faut réserver, parce que et sinon la file d'attente va être longue.
Voilà, et
il faut prendre rendez-vous. C'est une consultation de 10 minutes, il faut prendre rendez-vous.
C'est original, hein, ouais. Voilà.
Oui.
Et donc,
c'est vraiment une expérience.
Avec le Goethe-Institut qu'on a...
Très belle, en plus dans ce lieu magnifique qui est le musée Ingres-Bourdelle. Alors il y a d'autres propositions en lien avec le thème Montauban et le baroque qui sont offertes aux festivaliers. Le 6 octobre à 17h30 au Théâtre Olympe de Gouges, il y a quelqu'un qu'on connaît bien à Montauban, le journaliste et écrivain Jacques Mégaudas, oui. Tout simplement, oui. Qui va lire en occitan des poèmes du 16e siècle. Voilà, et au programme de cette lecture qui est organisée en partenariat avec l'association Carrefour Castan, il y a des œuvres de Clément Marot, de Guillaume de Saluste Dubartas, Auger Gaillard et Jean d'Escorbeac. Bon, voilà pour les connaisseurs. Et puis, il y aura une projection de 19h à 22h30, toujours au Théâtre Olympe de Gouges, jeudi 6 octobre, d'un documentaire Mémoire baroque, une traversée des passions. Alors ça vous concerne. Dites-nous quelques mots.
Oui. Alors cette fois-ci, ce n'est pas la Méditerranée qu'on traverse, mais l'océan Atlantique pour aller en Amérique du Sud. On a parlé de l'Argentine. On ne sera pas loin, on sera en Bolivie. Et en fait, ce documentaire, c'est un film qui a été tourné sur les trois voyages que l'on a fait quand on est allé au festival Misiones de Chiquitos à Santa Cruz en Bolivie, qui reprend les musiques des missionnaires, des jésuites, qui étaient venus évangéliser les Américains du Sud, les Sud-Américains et les Indiens d'Amazonie. Donc on a retrouvé ces partitions. Il y a un gros travail qui a été fait. Je dis « on », c'est pas nous, c'est pas les passions. Mais on a participé aussi à ce mouvement-là de découverte de partitions. Donc il y a un documentaire vraiment très, très, très intéressant qui a été tourné à cette occasion-là.
Voilà, et comme vous faites toujours bien les choses, il y a une présentation à 19h, tout ça c'est au Théâtre Olympe de Gouges, présentation à 19h, un buffet à 19h30, et puis la projection du film à 20h30. On ne va pas se quitter sans écouter encore un peu de musique avec le duo T42, formé par la flûtiste Alice Chimansky et la théorbiste Alban Hims. Elles interprètent ici la sarabande de la 5e suite pour dessus et basse de François-André Danican Philidor. Thank you. La Sarabande de la 5e suite pour deux su et basse de François-André Danican, Philidor, interprété par le duo T42, avec qui nous terminons cette présentation de la 8e édition du festival Passion Baroque. Il a lieu du 1er au 9 octobre à Montauban et dans le Tarn-et-Garonne. Le détail de la programmation est consultable sur le site www.les-passions.fr. La billetterie en ligne est disponible à l'adresse www.passionbaroque.festic.net. Merci à mes deux invités, Serge Chosy et Jean-Marc Andrieux, pour leur venue et leur participation à cette émission passionnante. Et si elle a été passionnante, c'est grâce à vous, bien sûr. Je signale aussi le 22 septembre à 20h à l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines à Toulouse, un concert caritatif des Passions de Montauban, organisé en partenariat avec le Rotary Club de Toulouse, un programme Césaria Vivaldi. Je vous laisse vous renseigner pour en savoir plus. Je rappelle d'autre part que le festival Piano Jacobin se poursuit jusqu'au 30 septembre. Vous pouvez vous renseigner, réserver et acheter vos places en ligne en vous connectant à l'adresse www.pianojacobin.com. Et je rappelle aussi que l'Orchestre de chant de Toulouse est en concert le 14 septembre à l'escale du Tournefeuille, puis les 15 et 16 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Tous commencent à 20h30. Réservation et achat des places en ligne sur le site www.orchestredechambre-de-toulouse.fr. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro. Le podcast est téléchargeable dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous de nous rester fidèles. Très bonne semaine musicale à tous.